RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Il est 11h, passé quelques minutes dans les GG, dans les grandes gueules, en direct sur RMC et RMC Story avec Charles Consigny, avec Laura Barton-Martinez, avec Didier Giraud et avec vous, bien sûr, au 32-16. On va continuer de discuter, on va continuer de débattre. On accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est un homme libre que nous accueillons, c'est Guillaume Kasbarian, l'ancien ministre du Logement, aujourd'hui à la tête de ce Parti de la Liberté. Bonjour.
Bonjour. Bah tiens, on va tester votre liberté de parole. Le gouvernement envisage d'encadrer les marges des distributeurs sur les prix des carburants. C'est la bonne solution ?
Alors, je suis pas un grand fan de l'encadrement des prix et des marges, parce que généralement, quand vous encadrez les prix, ça peut produire des ruptures de stock et des pénuries. C'est ce qu'on a vu dans plein de secteurs économiques et dans notre histoire. Donc c'est toujours un levier qui est assez dirigiste, assez étatiste et qui fonctionne assez mal. Et en l'occurrence, sur ce secteur-là, de ce que je comprends, la marge des distributeurs, en réalité, est assez faible. C'est quelques petits centimes. Donc je vois pas très bien quelle usine à gaz on va créer et ce que ça va générer à la pompe. En revanche, de ce que j'ai compris, c'est que les distributeurs proposaient quelque chose qui peut-être peut mieux marcher, c'était de temporairement ne pas prélever les certificats d'économie d'énergie qui, eux, représentent entre 15 et 20 centimes au litre. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais je suis pas sûr que bloquer les prix, bloquer les marges, ça produise des effets escomptés. Je voudrais pas qu'on fasse des promesses en l'air aux Français et qu'on leur dise que tout d'un coup, par magie, parce qu'on a bloqué les prix et les marges,
on cherche un peu un bouc émissaire. On dit que c'est la faute du jour.
Non, jamais. Dans plein de secteurs, ça marche pas. Quand vous bloquez les prix, dans plein de secteurs, ça fonctionne pas. Et c'est ce qu'on a vu encore une fois dans notre histoire.
Pardon, mais ça fait 50 jours. Ça fait 50 jours qu'on vit cette crise et Monsieur Lecornu arrive avec cette proposition. Il y avait pas d'autre chose à faire?
Bah, je vous dis, moi je suis à l'écoute de ce que disent les acteurs, et ce qu'ils disent manifestement, c'est que la marge des distrib, elle est assez faible, c'est 1 ou 2 centimes, et que peut-être qu'il y a quelque chose à gratter côté certificats d'économie d'énergie qui sont prélevés.
On n'a pas envie de le faire, parce qu'ils l'auraient déjà fait depuis 50 jours.
Bah, je comprends que ça patauge et qu'effectivement ils ont du mal à trouver un dispositif qui marche bien. En revanche, moi ce que j'encourage le gouvernement à faire, c'est de ne pas distribuer de chèques et d'aides à tout va. C'est quelque chose qui peut devenir très coûteux. Le bouclier énergétique, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros.
Regardez ce que font les Allemands, les Italiens,
ouais,
les
mais ils ont fait des économies. Ils ont fait des économies sur leurs comptes structurellement depuis des années, ce qui leur permet, quand il y a une crise, temporairement, de donner une aide, mais qui est très temporaire. Le problème de notre pays, c'est qu'on fait pas des économies structurelles assez massives, et que du coup, quand la crise arrive, on a moins de moyens et moins de leviers que les autres. Et le vrai sujet, c'est d'être capable structurellement de baisser notre déficit, baisser notre dette, et justement nous donner des marges de manœuvre quand il y a des événements impromptus qui se présentent comme ça, pour pouvoir temporairement aider les uns et les autres. Mais comme il n'y a plus d'argent, comme ces économies n'ont pas été faites, on n'a pas la même latitude que les voisins.
Le parti de la liberté que vous lancez, c'est le parti de ceux qui veulent travailler le 1er mai ?
C'est le parti de tous ceux qui veulent défendre la liberté dans la vie de tous les jours, dans l'économie, dans la vie privée, dans la vie quotidienne. Et effectivement, sur le 1er mai, moi je suis très favorable à la liberté des uns et des autres, de toutes les professions, de travailler le jour qu'ils veulent, quand ils veulent, librement, tant qu'on force pas les gens, bien sûr, et tant qu'ils sont rémunérés de façon juste. Là, en l'occurrence, le 1er mai, on proposait de rémunérer double avec un certain nombre de protections, bien sûr, des salariés. Mais le fait d'empêcher des professions d'ouvrir, d'empêcher des travailleurs de bosser, d'empêcher des magasins d'ouvrir, alors qu'en plus, certains restent ouverts, enfin, que des McDo ou que certaines grandes surfaces restent ouvertes, alors que le fleuriste ou le boulanger peut pas ouvrir, c'est quand même des règles complètement absurdes. Moi, je trouve ça un peu débile.
Pourquoi c'est pas passé alors à l'Assemblée?
Bah, parce qu'il y a eu un manque de courage. C'est passé à l'Assemblée. Il y avait une majorité à l'Assemblée pour le voter. On l'a vu la semaine dernière. Il y avait le centre, la droite et le RN qui étaient prêts à le faire passer. Et donc, il y avait une majorité pour voter le texte. Le gouvernement a décidé de se carapater parce qu'ils avaient peur des syndicats et ils avaient peur de la gauche. Et donc, par manque de courage, ils ont laissé tomber l'affaire. Ce qui fait que le 1er mai, on va avoir des professions dans la galère, des artisans dans la galère et des salariés qui auraient voulu bosser librement et gagner plus parce que ça leur fait plaisir de bosser, qu'ils ont envie de le faire, qui gagnent plus. C'est leur choix, en fait. On force personne. Eh bien, malheureusement, encore une fois, on va les empêcher de faire ce libre choix et on va les contraindre avec des règles un peu absurdes.
Moi, je trouve ça dommage. Le Javier Milei français, l'homme à la tronçonneuse.
En tout cas, moi, j'ai toujours été libéral. Quand j'étais député, j'ai porté des propositions de loi libérales, la lutte anti-squat, la protection de la propriété privée. La lutte contre l'absentéisme aussi. Quand j'étais ministre, j'avais touché les jours de carence, la baisse du remboursement des arrêts maladie. J'ai voulu mettre fin au logement social à vie. Bref, moi, dans 9 ans où j'ai pratiqué la politique, que ça soit en tant que député ou ministre, j'ai essayé d'insuffler des mesures, des réformes, des projets qui étaient libéraux et qui s'inspiraient d'un grand courant français, qui est la défense de la liberté. La liberté qui est la première valeur de notre devise et qui nous réunit tous, je l'espère, dans notre belle République.
Charles ?
Moi, je trouve ça évidemment sympathique sur le principe, puisque ce sont des idées que je partage. Moi, je pense qu'il faut même une révolution thatcherienne en France. Mais justement, je crains qu'on en fasse, qu'on utilise ça à d'autres fins. Je suis toujours amusé de voir, c'est remarquable d'ailleurs, les sortants, au bout de 10 ans de pouvoir, venir avec la même fraîcheur nous expliquer ce qu'ils vont faire pendant les 5 ans qui viennent. Ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment l'élève au troisième conseil de classe de l'année qui explique qu'il va progresser, il va faire des efforts, etc. Alors que ça fait depuis le mois de septembre qu'il est en dessous de la moyenne. Donc, j'avoue être un peu circonspect. Je pense que vous appartenez à une famille politique qui n'a pas du tout gouverné selon les idées que vous prétendez défendre, puisque bon, on a 1500 milliards d'euros de dette en plus, on est toujours le pays le plus fiscalisé du monde au bout de 10 ans de Macron, et j'ai pas observé qu'on ait appliqué ces principes-là. Et je me demande si votre parti n'est pas un satellite créé de toutes pièces pour attirer ceux qui seraient tentés par un autre vote plus libéral que celui que vous allez finalement soutenir, puisque voilà, vous allez, je pense, mais peut-être vous allez me démentir, soutenir le candidat du Bloc central. On verra qui ce sera finalement une fois que la lutte titanesque entre Édouard Philippe et Gabriel Attal et Le Cornu et Darmanin, etc., s'achèvera. Il y en aura un qui sera candidat et vous allez le soutenir et mettre à son service votre parti libéral. Moi, je pense que ça n'est pas défendre les idées libérales que de faire ça. Je pense qu'il faut que le président lui-même soit avec sa tronçonneuse à la main. Or, je suis désolé, le Bloc central, il y a personne qui a une tronçonneuse dans la main.
Non, il y a deux choses.
S'ils ont un ciseau à ongles, c'est le maximum.
Alors, Guillaume,
il y a deux choses dans ce que dit Charles Consigny. La première, c'est la cohérence entre les discours et les actes. Moi, depuis 2017, où j'ai été élu, j'ai pas dit l'inverse de ce que personnellement j'ai fait et porté à l'Assemblée nationale. Quand j'ai porté une loi anti-squat, et quand j'ai voulu sortir les squatteurs le plus vite possible, c'était un projet libéral qui défendait la propriété privée. Je m'en suis pris plein la gueule de l'extrême gauche, de tous les collectifs de mal logés qui m'ont dit « Mon Dieu, il est horrible, il est libéral, il défend la propriété privée ». J'ai assumé, je me suis pris des manifs dans la tête et des menaces de mort. Quand j'ai été au logement, j'ai voulu mettre fin au logement social à vie. Malheureusement, j'ai été dissous. J'ai pas pu aller au bout du projet, mais c'était un projet libéral qui venait à redonner de la latitude et à permettre aux Français d'être propriétaires. Et quand j'étais à la fonction publique, je me suis pas caché derrière mon petit doigt en disant « Faut faire des économies, mais je sais pas en faire dans mon ministère ». Je suis allé à Bercy proposer moi-même des économies avec les jours de carence, la baisse des remboursements d'arrêt maladie, le gel du point d'indice et une réforme de la fonction publique. Donc moi, je me suis jamais caché et j'ai pas le sentiment personnellement, ou alors démentez-moi. Et là, au dernier PLF, au dernier projet de loi de finances, au dernier budget, j'étais un des rares à porter des mesures réelles d'économie sur les retraites, la baisse de remboursement, la suppression du remboursement des cures thermales, le gel des retraites, parce que personne n'était capable d'appuyer sur le bouton du gel des retraites, la suppression de 10% de la valeur. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je suis cohérent avec moi-même, Charles. Moi, ce que je vais faire là, c'est que dans les mois qui viennent, et plus on sera nombreux à défendre les idées libérales dans le débat public, ouais, plus elles auront un espace, plus elles arriveront à percuter dans l'opinion. Moi, je défendrai des projets et des propositions les plus libérales possibles sur les questions économiques, sur les retraites. Vous avez parlé tout à l'heure de la capitalisation, je vais le faire. Et je vais, dans le débat public, les défendre le plus loin possible. Et à la fin, on verra bien qui parmi les candidats, qui dans les candidats,
et vous serez le libéral qui dans du Bloc central.
Non, qui dans les candidats reprendra. Moi, je veux dire, Charles Consigny, je serais ravi qu'un maximum de candidats, d'où qu'ils viennent, reprennent ses idées, ses propositions.
Il y a David Lissard sur votre segment, si je puis dire.
Bien sûr, qui défend la liberté, notamment les libertés économiques sur certains aspects. On peut avoir quelques d'ailleurs différences, parce que tous les libéraux sont pas uniformes. Il n'y a pas un monopole de la pensée libérale. Il y a des sensibilités. Il y en a qui sont libéraux sur les questions économiques, d'autres qui le sont un peu moins sur les questions de société, voire même qui sont un peu conservateurs sur ces sujets-là. On a des sensibilités, moi, je vais pas taper sur ceux qui défendent la liberté. J'encourage toutes celles et ceux dans les responsables politiques qui veulent défendre la liberté à le faire. Je les y encourage. J'y contribue moi-même.
Simplement, le bilan des 10 ans, là, vous trouvez que c'est libéral? Ce qui a été fait pendant le Covid, par exemple, c'était une défense de la liberté. Quand on a patrouillé au-dessus des chemins de campagne en hélicoptère pour vérifier que les gens n'y allaient pas, quand on a envoyé des policiers sur les plages pour demander aux gens de pas rester assis trop longtemps sur la plage parce que on craignait je ne sais quoi avec des gens assis sur les plages, c'était une défense.
Oui,
de,
mais il y a
de
pu
de
avoir des bêtises pendant la Covid, quand, mais quand, enfin, tout quand, comme j'avais visé les plages, c'était pas forcément l'idée de libérer non plus. Mais il y a eu plein de personnes qui ont fait des erreurs pendant la Covid, pendant les crises successives. Globalement, il y a eu des réformes libérales qui ont été menées sur la réforme du marché du travail, la question de la fiscalité avec le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, la baisse des impôts de production dont tout le monde nous bassinait depuis des années. Ouais. Bah, pardon, mais il y avait peu de monde à l'époque, je m'en rappelle, qui était prêt à soutenir la baisse des impôts de production. Les élus locaux n'en voulaient pas. Donc, il y a eu des choses libérales, d'autres qui l'ont été un peu moins. Il y a eu des crises successives qui sont venues heurter un certain nombre de réformes très vite, en réalité, dans le premier quinquennat. Et puis, vous avez, c'est vrai, Charles Consigny, si vous voulez que je le dise, il y a des personnes qui pensent pas exactement pareil dans le bloc central. Mmh. Il y a des gens qui sont libéraux assumés comme moi.
Le président,
il y en a
d'autres
qui sont plus sociaux-démocrates.
Est-ce que le président Macron,
il y en a qui ont des idéologies
différentes. En 2017. Est-ce qu'il l'est, finalement, le président Macron?
Moi, je pense que il l'était, c'était la philosophie de départ en 2016-2017.
Voilà, c'est exactement ce que je veux vous dire. Et vous me faites penser.
C'était l'idée de révolution à la base.
Hein, au jeune Macron de 2017, celui qui avait pondu le rapport Attali, qui voulait libérer le travail, qui avait porté les lois travail, qui voulait effectivement décloisonner un peu les certains secteurs économiques, mettre fin à certaines rentes, il s'en prenait aux notaires, etc. Il y avait cet esprit libéral dans la campagne de Macron 2017. Mais comme le dit Charles, 10 ans après, le libéral Macron s'est transformé en un étatiste, comme les autres.
Il y avait, je vous rejoins sur le fait que le projet initial était un projet libéral. Il y avait le projet révolution. Le premier pilier du programme s'était libéré, s'était réformé. D'ailleurs, les premières réformes d'Emmanuel Macron.
Ça n'a pas été tenu.
C'était libéré des secteurs qui étaient sclérosés.
Oui, d'accord, mais Guillaume, c'est intéressant, c'est de savoir pourquoi, finalement, il n'a pas pu tenir sa ligne. Est-ce qu'on peut être libéral en France? Est-ce que les Français le veulent? Parce que ma théorie, c'est que les Français ne sont pas des libéraux dans l'âme.
Ah, je suis pas
ils sont attachés à l'État-providence. Ils aiment bien quand même quand l'État intervient dans tous les domaines de leur vie. Parce que on a été tous biberonnés à ça.
Moi, je trouve qu'en réalité, ils sont en attente de liberté. Quand on vous dit, il y en a marre des squatteurs, faut les sortir, l'idée libérale sous-jacente, c'est la protection de la propriété privée. Mmh. Quand ils vous disent, on en a ras-le-bol de payer autant d'impôts, l'idée sous-jacente, c'est une idée libérale de baisser de la fiscalité.
Ouais. Quand on vous dit, on en a marre. On a ras-le-bol de tant d'impôts, sauf que quand l'augmentation de l'essence et du gasoil, ça représente à peu près 7 euros dans leur budget mensuel, eh ben, ces mêmes gens demandent un chèque, quoi. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec Olivier. Je me demande si la France est vraiment libérale. Toujours demandé ce que vous foutiez en Macron.
Je vais prendre votre exemple de votre profession, l'agriculture. Beaucoup d'agriculteurs, et il y a beaucoup de professions, disent, il y en a marre de la bureaucratie, de la paperasse, des CERFA. On passe trop de temps à remplir des papiers. Plutôt que d'être dans nos champs et à travailler dans notre métier. Ce sous-jacent-là qui est de dire stop à la bureaucratie, simplifions la vie des gens et évitons de leur laisser passer trop de temps dans de l'administratif pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de leur vie professionnelle. L'idée sous-jacente des agriculteurs que j'écoute dans ma circonscription et ailleurs, c'est bien une idée libérale de débureaucratisation. Mmh. Donc, ce que je veux dire, là, c'est ça dépend comment vous.
La Beauce, faites-leur baisser de 200 balles à l'hectare les prime pack et puis vous allez voir
ce qu'ils attendent, c'est qu'ils aient les mêmes règles que leurs voisins et qu'ils soient armés sur la concurrence internationale. Ce qu'ils attendent, c'est que ça soit plus simple, qu'on leur interdise pas des produits en France qui sont autorisés partout ailleurs en Europe.
C'est évident.
Ben oui, mais ça, c'est une idée
sous-jacente.
Et ben, la lutte contre la suradministration, c'est bien une pensée libérale. Et donc, je pense que même si on l'appelle pas comme ça, parce que le mot libéral est très connoté péjorativement.
Rien que le mot est un tabou.
Mais parce que toute la gauche, pendant des décennies, a voulu tuer cette idée et expliquer que le libéralisme, c'était quelque chose de méchant. Mais si vous prenez mesure par mesure, sujet par sujet, ces propositions-là de liberté, de redonner plus de liberté aux Français, moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui attendent de respirer, qu'on leur foute la paix, d'avoir plus de latitude et plus de liberté individuelle.
Liberté, c'est la première, c'est le premier mot de notre devise. Mais les Français sont plus attachés à l'égalité qu'à la liberté.
Ce qui compte, d'accord avec
ce qui compte, c'est d'avoir la même chose que son voisin. Ou en tout cas, que le voisin n'ait pas plus que moi.
Alors,
on en parlait avec les retraites, mais c'est
l'égalité des droits. C'est le fait de dire, d'où que vous veniez, quels que soient vos parents, votre condition familiale, que vous ayez accès à la même chance, à la même mérite.
Oui, mais c'est pas ça. Il faut définir à ce moment-là. Pardon, de le rajouter après, mais c'est peut-être qu'il faut redéfinir, et ce sera la tâche du prochain président de la République, quel est le périmètre de l'État. Parce que ça, aujourd'hui, finalement, dès qu'on sort de chez soi, ou même chez soi, l'État est partout.
Partout.
Donc, quel est le périmètre de l'État? Est-ce que l'État doit être économique? Est-ce que l'État doit être sur les valeurs régaliennes? Est-ce que l'État doit être social? Quel est le vrai périmètre de l'État?
Moi, je réponds clairement sur le sujet. Aujourd'hui, quel est le périmètre de l'État aujourd'hui? Sur 1000 euros qui vous sont prélevés à travers des taxes, des cotisations, des prélèvements, des impôts, sur ces 1000 euros-là, il y en a plus de 560 qui partent sur le social. Et quand je mets le social, c'est social, santé et retraite, qui sont massivement des dépenses publiques qui expliquent qu'on vous prélève autant. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réduise ce modèle social, qu'on réduise le poids des retraites, parce qu'aujourd'hui, les actifs ne peuvent plus supporter qu'on augmente.
Qu'est-ce que vous proposez sur les retraites, par exemple?
Sur les retraites, je propose que, déjà, on désindexe une partie des retraites, celles qui sont au-dessus du SMIC. Je comprends pas qu'on continue à augmenter les retraites parce qu'elles sont payées par les actifs. Faut bien avoir en tête que les retraites des retraités d'aujourd'hui sont payées par les actifs d'aujourd'hui. Donc plus vous avez des hommes politiques qui promettent d'augmenter les retraites, plus vous faites peser ce poids-là sur les actifs qui voient leur fiche de paye à un gros différentiel entre le brut et le net. Donc il faut arrêter ces promesses en l'air de « on va augmenter toutes les retraites chaque année systématiquement » parce que si vous faites ça, vous surchargez les actifs. Donc il faut désindexer à partir d'un certain niveau. Moi je propose que 1 400 euros, 1 400, 1 450 autour du SMIC, on dise au-delà de ça, on désindexe. L'autre élément, c'est qu'on passe à un nouveau système de capitalisation qui permette, et je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, à certains de dire il y a une retraite de base minimum qui permet à chacun de subvenir à ses besoins minimums. Et au-delà, si vous voulez avoir plus, on vous incite à investir dans des dispositifs. Est-ce que c'est des dispositifs immobiliers, des actions, des obligations, des exploitations agricoles, peu importe, mais qui vous permettent sur le long terme d'avoir un vrai rendement. C'est votre argent, c'est votre choix, c'est vos investissements. Et à la fin, vous en bénéficiez en tant que rente quand vous êtes à la retraite. On bénéficie d'une croissance qui est énorme. Quand vous regardez sur le long terme, les marchés boursiers, ils ont vachement augmenté. Et malheureusement, on a privé les Français de cette capacité de profiter de l'augmentation des marchés en leur disant c'est que la répartition.
Sauf les fonctionnaires et que le système préfond. Parce que le paradoxe, c'est que les fonctionnaires ont un fonds privé.
Pas forcément question. C'est moi le c'est quel, comment allez-vous, en fait, j'ai deux questions. C'est comment allez-vous faire pour que justement ce mot libéral ne soit plus un gros mot. Enfin, moi, je sais que quand je commence à dire que je suis libéral et que j'expose mes idées qui, pour le coup, sont plutôt des idées libérales sociales, c'est-à-dire que moi, j'investis sur le capital humain d'un entrepreneur à changer la face du monde, etc. Après, je suis pour la liberté. On défiscalise radicalement. On peut s'adapter. On peut s'aligner, par exemple, à la Suède où on est à 12%. L'Irlande, avec 12% de fiscalité, a récupéré le siège social de Apple. Donc, nous, on s'assoit sur 12% des recettes d'Apple. Ça fait quand même un petit peu mal, hein. Voilà. Donc, il faut changer ce mot. C'est comme je disais pour les retraites à capitalisation. Il faut arrêter de croire qu'en fait, la retraite par capitalisation, c'est un truc de gros riches.
Alors, comment
qui
on fait
va pouvoir
pour
investir? Bah, t'as des livrets bancaires qui vont se créer. Donc, comment, voilà, justement, vulgariser le libéralisme, le rendre
populaire
et faire comprendre aux gens que c'est pas un gros mot de riches
qui profite qu'aux riches.
Mais exactement, il y a un enjeu à rendre ces idées-là de liberté populaire. Donc, et on peut le faire. On l'a fait sur le squat, on l'a fait sur d'autres idées sur la fiscalité, on peut le faire, sur lesquelles on peut montrer que plus de liberté, c'est bien pour les Français et ça leur permet d'avoir un meilleur système dans lequel ils se sentent mieux, ils sont plus heureux. Et je pense qu'il faut réussir à vulgariser un certain nombre de ces idées-là plutôt que d'en parler de façon trop théorique. Après, quand vous parlez de la capitalisation, moi, je suis 1000% d'accord avec vous. La question, c'est comment est-ce qu'on donne les moyens aux salariés de capitaliser pour eux-mêmes. C'est sûr que s'ils ont 30% de cotisation pour un système par répartition, ils vont pas avoir d'argent pour pouvoir cotiser pour eux-mêmes. Moi, ils vont me dire, vous êtes bien gentil, vous me parlez de capitalisation, mais avec quel argent vous voulez que je capitalise? La seule façon d'y arriver, c'est si vous baissez les cotisations qui pèsent aujourd'hui sur eux, pour leur dire qu'ils ont un peu plus de liberté pour utiliser cet argent-là pour placer pour leur propre avenir, avec ça, leur argent. Mais ça, vous pouvez pas le faire si vous continuez à augmenter la dépense sociale. Parce que plus vous augmentez la dépense sociale, plus vous êtes obligé d'augmenter les cotisations. Donc si on veut baisser les cotisations des travailleurs, si on veut leur permettre d'être libres, il n'y a pas d'autre sujet que de baisser la dépense sociale. Tant que vous augmentez la dépense sociale et vous la laissez filer, eh ben, vous ne pourrez pas donner aux actifs la latitude des arbres pour capitaliser. Mais moi, c'est ce que j'ai proposé. J'ai proposé des dizaines et des dizaines d'amendements. J'ai été un des rares en l'hémicycle à prendre, excusez-moi, mais mon courage à deux mains pour dire on le fait. J'avais que des députés qui disaient il est hors de question de toucher au remboursement des cures thermales. J'avais que des députés qui disaient oh ben oui, il faut continuer à indexer toutes les retraites sur l'inflation, toutes sans exception.
Le remboursement des cures thermales,
que des députés
ça va pas
qui disaient
tout régler,
les 650 millions d'euros, moi je crache pas dessus.
Non,
mais en fait
sûr.
Si on commence à dire ben à un moment où on continue à rembourser tout et n'importe quoi, faut pas s'étonner que la dépense elle continue à augmenter.
Donc,
moi c'est des amendements que j'ai pas juste dit dans un plateau télé, je les ai déposés, je les ai votés. On était 20 dans l'hémicycle à les voter. Donc à un moment faut que les responsables politiques aient du courage de poser, de voter, d'appuyer sur le bouton et dire bah oui, on accepte de baisser la dépense, pas parce qu'on est des méchants, mais parce qu'on veut redonner aux actifs, aux travailleurs, la capacité à investir pour eux-mêmes et donc à baisser leurs cotisations. Voilà, c'est
mais
ça que je veux faire.
Un dernier mot, et là je m'adresse à l'ancien ministre que vous êtes. Qu'est-ce qui enquiste l'État aujourd'hui et qui empêche la réforme?
Le manque de courage.
C'est uniquement le manque. Je crois que souvent,
c'est pas le point d'administration.
On a eu d'anciens ministres qui ont dit c'est la technostructure, c'est l'administration,
savez,
c'est Bercy.
Ouais, ça m'énerve. Parce que ça, c'est les politiques qui se défaussent sur les fonctionnaires et sur d'autres. La vraie responsabilité, elle vient des politiques. Vous avez des politiques qui ont le courage, à un moment, de mener des réformes, de poser des projets de loi, de faire des décrets, de prendre leur courage à deux mains pour faire les choses. Et quand ils l'ont pas, bah, l'administration, elle fonctionne. Et c'est pas toujours populaire. Voilà, moi, c'est vrai. Moi, ça n'a pas été très populaire quand je me suis attaqué à l'absentéisme dans la fonction publique. J'ai eu droit à des manifs. Ça a probablement contribué d'ailleurs au fait que je sois débarqué par Bayrou quelques semaines plus tard. Mais j'ai eu des gens qui ont gueulé parce qu'ils ont dit, mon Dieu, quelle horreur. Il va augmenter les jours de carence et baisser le remboursement des arrêts maladie. Bah oui, j'ai assumé. C'était pas facile et je suis pas allé pleurer en expliquant que je voulais pas le faire. Donc, à un moment, c'est une question de courage. Il y a des hommes politiques courageux un peu partout d'ailleurs, parce que moi, je veux pas taper sur tous les hommes politiques. Il y a dans des ministères des hommes politiques
courageux.
Il y a dans son gouvernement, je vous ai demandé,
Sébastien Lecornu, est-ce qu'il est courageux? Vous dites dans son gouvernement.
Je suis un peu échaudé par ce qui s'est passé hier sur le 1er mai, où je vais vous dire que franchement, la pilule est quand même grosse à avaler, parce que ça nous met dans une mouise pas possible, et parce qu'il a cédé au syndicat et à la gauche. Par contre, si vous voulez que je parle positivement de certaines personnes, il faut parler positif. Il y a des ministres, Vincent Jeanbrun, par exemple, au logement, je trouve qu'il a des idées qui peuvent être libérales, qui permettent, là encore, de défendre la propriété, de réformer le logement. Donc vous voyez qu'il a la volonté d'aller dans le sens de la rivière.
Ayez un peu de panache. Vous lancez votre parti. Vous prétendez défendre le libéralisme.
Je le défends,
vous louez les hommes courageux. Lâcher ce bloc central qui a été incapable de
vous sortir de tout ça
pendant 10 ans.
Écoutez, mais sortez-moi de
rejoignez l'ISNAR,
rejoignez Retailleau.
Ne rejoignez personne, mais
montrez que vous êtes en rupture.
Oui, Charles, vous êtes tout de suite dans la tactique.
On voit que vous êtes en fait dans une logique d'ajustement. On va faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, etc. C'est pas comme
est-ce
ça.
Est-ce que c'est pas transpartisan
du libéralisme?
Oui, mais ce qui défend, c'est transpartisan.
Ce que je défends, c'est qu'il y a des libéraux.
Ah non, il n'y a pas de libéraux de gauche.
C'est le en même temps du libéralisme.
Et c'est mytho, les libéraux de gauche. Mais les libéraux de gauche, c'est Macron. C'est les éditorialistes de Challenge. C'est bidon, les libéraux de gauche.
Charles, ça n'existe pas. Il y a des libéraux un peu partout, pas forcément à gauche. Ça, je vous rejoins totalement. Au centre, il y a des libéraux. Excusez-moi, mais il y a des députés et des ministres qui défendent la liberté et qui existent aujourd'hui au centre, à droite, ailleurs. Dans la société civile, moi, je vais pas commencer à trier tout ça en disant, en fait, il y a qu'une seule personne qui a le monopole de la pensée libérale. Non, il y a des libéraux, il y a des gens qui défendent la liberté un peu partout. Faut les rassembler, faut bosser ensemble. Donc moi, je ne tape jamais sur ceux qui défendent la liberté. Je me concentre sur les étatistes et les dirigistes sont très, très, très nombreux dans notre pays. Ça serait bien que les libéraux attaquent plutôt les dirigistes et les étatistes que les libéraux s'attaquent entre eux.
Merci, Guillaume Kasbarian, à la tête fondateur du Parti de la Liberté. On verra quel est le parcours politique, où il vous emmène d'ici la présidentielle. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
11h25. Dans un instant, tiens, une femme, présidente de l'Assemblée nationale, madame Yaël Braun-Pivet, 2027, c'est le club des machos. Est-ce qu'elle a raison? On en discute avec vous, bien sûr, au 32-16 en direct sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules sur RMC avec MAF Pro. À chaque métier, sa solution d'assurance. MAF Pro, le réflexe pro. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
On se retrouve à midi avec Jean-Philippe Douille, Yaël Mélul et Fred Hermel sur RMC. On va parler de cette idée de la mairie de Paris, doubler les taxes sur les logements vacants pour pousser les propriétaires à vendre ou louer leur logement. Est-ce que vous êtes pour ou contre Amazon qui annonce un nouvel entrepôt géant en France? Est-ce que c'est génial ou inquiétant? Et puis, on va parler d'amour à distance. Les relations à distance peuvent-elles tenir ou sont-elles vouées à l'échec? Vous nous le dites au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est n'importe quoi pendant la pub. Charles Consigny, Didier Giraud et Laura Marton. Qu'est-ce qui se passe là?
Je me disais bien qu'il y avait une odeur bizarre.
Ah non, mais il y a un problème parce que Laura.
En fait, c'est la clope électronique.
Vapote à côté.
Je suis allée dans le couloir exprès pour ne pas
être
dans le
couloir. Moi, je préfère que tu prennes un goût cerise ou un goût fraise que ton goût tabac là.
Tous les anciens fumeurs sont devenus des intolérants.
Voilà. Mais c'est drôle, une drôle d'odeur quand même.
Alors, il paraît, pour les gens qui ne connaissent pas, que ça sent le
prout. Ah ben voilà. On peut comprendre qu'Olivier a les yeux qui coulent.
On peut comprendre qu'après 3 heures d'émission à côté de Laura.
Oula! Attendez, parce qu'on est un peu débordé avec M. Kasbarian là. Il nous reste 5 minutes. On va évoquer le club des machos.
Oh.
Le club des machos, c'est l'expression employée par Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, à propos de la prochaine élection présidentielle.
Bah, elle a raison factuellement, parce qu'il y a une vingtaine de candidats plus ou moins déclarés. On a fait la liste et sur ces 25, 26, 27, 28 candidats, il y a 5 ou 6 femmes. Donc c'est un truc qui est pour l'instant quand même réservé exclusivement aux hommes, quasiment exclusivement aux hommes. Il n'y a jamais eu de présidente en France de la République. Les premiers ministres, il y en a eu que deux, Madame Cresson, Madame Borne. Et quand tu regardes aujourd'hui le G7, bah, par exemple le Japon, c'est une femme première ministre. Bah oui, l'Italie, c'est une femme. Et en France, on donne beaucoup de leçons.
Il y a Madame von der Leyen aussi, voilà. Du coup.
Mais en France, on donne beaucoup de leçons.
Que des leçons.
Oui, on donne beaucoup de leçons sur la question, la parité, mais la mixité, les femmes, etc. Bon, ben, c'est la politique, c'est un truc encore réservé aux hommes.
Alors, est-ce qu'effectivement, la présidentielle, c'est un club de machos? 32-16 pour le dire aux grandes gueules, Laura?
Oui, alors, moi, je trouve.
Ça te gêne pas?
Alors, ça me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas une femme qui prenne les problèmes régaliens à bras le corps en France, qui ose sans avoir ce côté gentillette. Il faut que j'ai l'impression que, en France.
Il y a Marine Le Pen.
Oui, mais pardon, mais moi, je trouve que Marine Le Pen, elle est plutôt sociable. Elle est sociale. Tu enlèves l'immigration du projet de Madame Le Pen, pardon.
Elle est de gauche, quoi.
C'est ça. Enfin, je veux dire, hormis sa marotte.
Les femmes sont plutôt de gauche, c'est ça?
Mais non, c'est gentil. J'ai l'impression qu'en France, les femmes prennent des rôles politiques gentils. L'économie, Marlène Schiappa, qui a fait un travail extra, qui a fait un très bon travail, mais sur l'égalité hommes-femmes, voilà, prennent des rôles qui sont doux, qui sont gentils, des choses.
Il y avait Madame Lagarde, qui a été ministre de l'économie, quand même.
Oui.
Et qui est aujourd'hui patronne de la BCE.
C'est vrai.
Ben voilà, mais je trouve qu'il n'y a pas assez. Enfin, je ne vais pas cracher sur les hommes d'avoir plus de charisme sur ce genre de sujet-là. Bon, mesdames, si vous voulez qu'on soit représentés,
allez-y.
Prenez les sujets à bras le corps. Je veux dire, Mme Mélenchon, elle a réussi parce qu'elle a pris des sujets régaliens et économiques à bras le corps.
Oui. La politique, ce n'est pas une histoire de. C'est pas du tout une histoire de parité, c'est une histoire de compétence et de volonté. Et t'as raison, c'est la volonté. Après, moi, ce que je remarque quand même, c'est que ces grands hommes d'État, au niveau national, si tu regardes le panel, enfin, ce qu'elle dit, c'est factuel, ils imposent des règles aux plus petits qu'ils ne s'imposent pas eux-mêmes. Le jour où on a décrété que les communes de 100 habitants fallait qu'elles aient la parité sur leur leur liste pour les municipales, on s'est pas occupé de savoir s'il y avait des candidates ou pas. On a fait chier tout le monde avec ça. Il y a des endroits où on se retrouve avec des maires élus à 100% et 40% de vote blanc blanc ou de vote nul, en plus des 50% d'abstention, ça, tout le monde s'en fout. Par contre, on va en faire des caisses sur le fait qu'il n'y ait pas de femmes à la tête de l'État. Ben moi, je suis désolé, quoi. C'est toujours et encore le principe du « on s'applique pas à soi-même ce qu'on impose aux autres », quoi. Et ça, ça me gêne quand même sur le fond, quoi. Pourquoi il n'y a pas la parité à la
moi, moi, je suis contre le principe de.
Pourquoi
parce
on
que
peut
t'es
tolérer
une femme,
qu'il y ait
27
candidats déclarés et qu'il y ait deux femmes sur les 27?
Je trouve ça antiféministe de dire, vu que t'es une femme, bah, on va te mettre à ce poste-là. Non, c'est mes compétences qui doivent faire en sorte que je sois là. Donc, je le réitère. Je veux pas de quota, je veux pas être là parce que je dois être le quota féminin, par exemple, sur le plateau des GG. Je pense que demain, toutes les femmes qui sont sur le plateau des GG et qui participent, on serait là, gnangnan, à dire que des choses complètement absurdes ou qui ne servent strictement à rien et qu'on serait bêtes comme des papillons. Bah, on partirait.
Charles, le club des machos de 2027. Elle a raison, Yaël Braun-Pivet. En même temps, elle prêche pour sa paroisse, effectivement.
Peut-être qu'elle a raison, mais je pense que ça tient aussi à notre système électoral et que dans les démocraties qui fonctionnent selon le système parlementaire, où en gros c'est la famille politique qui arrive en tête aux élections, qui envoie son leader comme chef de gouvernement, comme ça existe dans les pays du Nord, comme ça existe en Italie, en Angleterre. En fait, je pense que paradoxalement, c'est plus propice à davantage de parité. Parce que la présidentielle à la française, c'est quand même un truc
de mec
assez archaïque, où tout à coup, il y en a un qui se réveille un matin en se prenant pour Napoléon ou De Gaulle, et qui dit « j'y vais, c'est moi, la rencontre entre moi et le peuple », etc.
C'est un peu de mégalo.
Et je pense que c'est moins, je veux pas faire de généralité, mais j'ai le sentiment que ça correspond un peu moins à la psychologie des femmes, à leur manière de s'engager, etc. Donc je pense que ça tient quand même pas mal au système électoral. Après, vouloir convoquer les réunions en mixité comme le fait Madame Braun-Pivet, je pense que c'est pas le sujet non plus. Mais voilà, mon analyse, c'est que ça tient à notre système électoral qui est très
conçoit
la présidentielle vraiment comme une espèce d'aventure guerrière.
En fait, c'est égocentrique parce que
et pas seulement comme un scrutin rationnel.
Oui, mais s'il n'y a pas quand même
présentation d'un projet,
s'il n'y a pas quand même les écuries politiques et le monde politique, il a quand même été très masculin toutes ces dernières années.
Oui, mais c'est plus le cas.
Si tu veux, la France n'a pas laissé beaucoup de place même sous toutes les républiques aux femmes.
L'Europe, l'Europe en général, ça a été quand même ultra patriarcal. Les grandes écoles.
Après, il y a la Grande-Bretagne, il y a eu un premier ministre qui est entré dans l'histoire. Là où nos deux premières ministres françaises ne sont pas
entrées. Mais oui, mais parce qu'en Grande-Bretagne, le premier ministre, c'est le chef de l'État, entre guillemets.
Oui, bien sûr. Donc, notre régime politique.
Oui, c'est pour ça qu'il y a pu y avoir Thatcher en Angleterre, Meloni en Italie, beaucoup de femmes premières ministres.
Il faudrait changer de régime.
Danemark, en Norvège, dans tous ces pays-là. Voilà. Après, il tient qu'à elle aussi. C'est-à-dire que, regardez, par exemple, Macron, il a quand même nommé longtemps Madame Borne première ministre. À elle de faire en sorte de devenir une présidentielle possible. Pourquoi elle le fait pas? Parce que voilà, elle a un tempérament qui est peut-être pas compatible avec la présidentielle. Elle est très raide, elle est très réservée sur sa vie privée, elle-même, etc. Elle veut pas s'exposer. Elle est pas, c'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement marrant. Thatcher, par exemple, vous reprenez les images des débats parlementaires en Angleterre. Elle était à mourir de rire, Thatcher, quand elle s'y mettait. Et c'est vrai qu'elle.
D'ailleurs, rappelez la dame de fer. Elle dominait
tous ces messieurs d'une manière, incroyable.
Elle en imposait.
Donc, même regardez en Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Madame Merkel, comment elle arrive? Après, j'arrête parce que je vais avoir une alerte tunnel. Pourquoi c'est Merkel? Parce qu'en Allemagne, c'est un système où faut former des coalitions. C'est un système où il faut former des coalitions, mettre les gens d'accord, etc. Où les partis s'allient. C'est pas du tout moi tout seul à la rencontre du peuple allemand.
Oui. C'est pas Napoléon.
Un truc beaucoup plus, voilà. Et donc, Je pense que c'est un autre exemple,
Charles. Parce que
cherchez pas, je vous ai donné la raison.
Madame Braun-Pivet, c'est que les Français sont des machos. Mais y a-t-il
pas les Français, elle a dit. Ouais. Là, c'est un club de machos.
C'est un club de machos. Mais du coup, si on analyse l'Italie, je pense que le patriarcat est largement aussi implanté qu'en France. Je pense que les gens sont largement aussi machos en Italie qu'en France. Pourtant, Madame Meloni, elle arrive.
Parce que c'est pas les Français qui sont machos.
Oui, mais je comprends ce que veut dire Didier.
Marine
Le Pen est arrivée quand même à deux présidentielles en finale. Donc,
les Français sont prêts à voter pour elle. Très bien résumé,
Madame Ségolène.
Il a fait introduction, développement, conclusion. Dans une magnifique plaidoirie, quasi que des hommes candidats en 2027. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expression « finalement c'est un club de machos » Vous dites non, c'est pas un club de machos. À 71%,
les gens pensent qu'on les traite de machos eux-mêmes.
Mais t'aurais posé la question, êtes-vous d'accord avec Madame Braun-Pivet? Je pense que t'aurais été à 71-25 aussi.
Dans un instant, on va terminer en s'intéressant au cadmium. Est-ce qu'on est en train de s'empoisonner la santé avec le cadmium?
On le retrouve dans
tous nos aliments. 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est midi moins 20. Vous êtes avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules. Quelle heure est-il? Midi moins le quart. On est sur RMC, RMC Story avec Laura Barton Martinez, Didier Giraud et Charles Consignan. On va prendre quelques minutes, peut-être avec vous d'ailleurs, j'en suis sûr, au 32-16, pour parler de ce fameux cadmium maintenant. Le nom résonne dans l'actualité sanitaire. C'est bon nombre de médecins d'ailleurs qui alertent sur la toxicité du cadmium. Alors c'est vrai que le cadmium, on le retrouve dans nos sols, sauf que visiblement il est dans les pesticides et maintenant on a du cadmium dans tous les aliments, donc nous sommes en train de nous empoisonner au cadmium.
Le cadmium, c'est un métal lourd qui serait donc présent dans notre alimentation et au quotidien, Donc on serait tous en train de manger du cadmium sans le savoir, parce que c'est un métal qui est invisible, indolore, mais visiblement très toxique. C'est ce que disent en tout cas les experts de la santé publique. Ils ont rendu un rapport, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, qui a évalué pour la première fois l'exposition globale de la population générale tout au long de la vie. Et nos repas constituent la voie principale d'exposition au cadmium pour les non-fumeurs, expliquant jusqu'à 98% de notre imprégnation. Donc ça veut dire qu'on en a tous, et peut-être d'ailleurs c'est le risque de cancer. Didier Giraud, toi qui nous nourris, est-ce que tu es au courant de tout ça?
Bon, non, pas du tout, mais après j'ai aussi cherché à savoir et décrypter, contrairement à ce que tu dis. Et la photo qu'il y a derrière toi, c'est pas avec un pulvée qu'on met du cadmium dans la terre et dans les aliments, non. C'est avec un semoir engrais, parce que dans les engrais, il y a une classe d'engrais, donc qui est le phosphore, et le phosphore est principalement issu des cendres des hauts fourneaux. C'est comme ça qu'on crée du phosphore, et donc du coup, il se retrouve dans cet engrais qui est le phosphore, des métaux lourds. Voilà, c'est comme ça que ça transmet à la terre. Après, moi, j'ai pas le recul scientifique pour savoir entre le moment donné où il y a du cadmium dans la terre et le lien direct avec des cancers. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, ça.
Il faut être prudent.
Parce qu'aujourd'hui, faudrait déjà qu'on m'explique comment on passe du cadmium dans la terre au cadmium dans la plante. Avant qu'il arrive dans ton alimentation et dans l'être humain, quoi. Est-ce que nos ancêtres, ils avaient dans le corps moins de cadmium que nous, on en a? J'en sais rien, moi. J'ai pas. C'est étonnant et c'est aboutissant qu'il y ait des gens qui s'attendent.
Tu sais qu'il y en a dans les huîtres, dans les crustacés.
Mais oui,
oui.
Élément naturel.
Alors, c'est un élément naturel, mais bon, les huîtres, on en mange pas tout le temps. En revanche, par exemple, l'ANSES dit, il faut attention aux céréales.
Ben oui, parce que du coup, quand tu cultives des céréales, tu mets de l'engrais phosphaté. Donc voilà, c'est le lien entre le phosphore qu'on amène en tant qu'engrais et la plante. Il est à peu près fait. Après, entre la plante, ce que tu consommes et ton corps, et derrière ça, le cancer, moi, j'aimerais qu'on me le prouve scientifiquement avant que...
Moi, je suis très fatigué par ces industriels, leurs lobbyistes et leurs relais, qui essayent de dresser des murailles entre la cause et la conséquence. C'est-à-dire, on a des explosions de cancer, notamment des enfants, qui souvent sont à proximité de régions agricoles où on découvre que, comme par hasard, on répand en abondance tel ou tel pesticide sur lequel on a des soupçons. Et on a ensuite des industriels et des journalistes, parfois. J'en connais certains qui sont assez systématiquement à monter au créneau sur le sujet, de telle sorte que l'avocat pénaliste que je suis a des soupçons quant à leur intégrité, qui viennent vous dire « Non, mais ça n'est pas prouvé, aucun lien ne peut être établi, etc. » Alors que parfois, il suffit d'une observation empirique pour voir que certaines personnes qui habitent à proximité d'exploitations où on répand abondamment des pesticides, y compris les agriculteurs eux-mêmes d'ailleurs, développent des maladies. Voilà. Donc,
mais ça, c'est pas une étude scientifique.
Et on a démontré aussi, sauf erreur de ma part, que s'agissant des céréales, le bio est beaucoup moins exposé au cadmium, et que donc, quand même, on recommande gentiment de plutôt manger des céréales bio que pas bio. Donc, c'est un sujet de santé publique qu'il faut évidemment prendre à bras-le-corps. À quel moment on a la moindre complaisance quand on se retrouve avec une augmentation du cancer chez les enfants? Il faut évidemment...
Parce que le problème, Charles,
se saisir
c'est que
de
tes cornflakes le matin, ils sont pas forcément issus de l'agriculture française, ils sont pas forcément bio, et que demain matin, tu vas donc...
Mais il faut acheter des cornflakes bio.
Fort de ton observation,
c'est pas cher,
tu vas légiférer en France et tu continueras à manger des cornflakes qui sont fabriqués en France avec des céréales qui viennent de je ne sais où, et tu continueras à manger ta petite dose de cadmium. Et à un moment donné,
parce que si tu dis...
à un moment donné, tant qu'on n'a pas clarifié Quant à l'alimentation, les circuits de fabrication et de distribution, à un moment donné, on n'a rien fait, quoi.
Ouais, enfin, en attendant, par exemple.
Bah, en attendant, on va interdire de dépendre de l'engrais en France. Et on va continuer à bouffer les cornflakes.
Regarde, par exemple, on a reçu Kasbarian. J'ai regardé sa fiche avant qu'il arrive. J'ai oublié de lui en parler. Il a voté pour la réintroduction du pesticide controversé sur la betterave.
Bah, bien sûr.
Bon, bah, voilà. Oui, mais donc, voilà.
Parce qu'il est d'une région. Et on produit de la betterave.
Et, oui, mais donc
et on ne sait pas faire.
Et donc, il va empoisonner des gens avec ça.
Oui, mais
il suffit. Je suis désolé.
Mais non.
Je suis désolé.
Mais non.
Aujourd'hui,
parce que tu vas interdire les éleveurs, les céréaliers bosserons de faire de la betterave chez Kasbarian. Mais à côté de ça, tu vas continuer à bouffer du sucre qui est fait avec des betteraves qui auraient été traitées de l'autre côté.
En tout cas, quand tu vas dans un. Oui, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Quand tu vas dans un supermarché aujourd'hui, je suis désolé, les céréales bio. Des marques de distributeurs, comme on dit, qui sont exactement les mêmes que celles de Kellogg's, elles valent moins cher même que les céréales non bio. Donc déjà, si on dit la vérité aux gens sur le cadmium en leur disant faites attention, ils vont pas l'air.
Ça t'inquiète ou pas, toi?
Non, mais moi, ça m'inquiète parce que je vois toujours que l'argent gagne sur la santé publique. C'est quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que pour plus de rendement, pour plus. Et Didier a raison. C'est-à-dire que. On est obligé de mettre des engrais pour que ça aille plus vite. On est obligé de faire des choses pour que ça aille plus vite.
Non, pour nourrir les gens.
Non, mais ce que je veux
dire. Parce que le tout bio, ça s'appelle le Moyen Âge. Il y avait 11 millions de Français.
C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, là où je te rejoins, c'est qu'on demande à nos agriculteurs de respecter un nombre de normes incommensurables, mais que du coup, ce qui se passe, c'est que les gros marchés vont se chercher et vont se servir ailleurs. Et ailleurs où il y aura du cadmium. Donc ça veut dire que l'éleveur, lui, son blé, son vrai blé, où il n'y a pas de cadmium, personne ne va lui acheter. On va aller une entreprise française va aller acheter le blé autre part où il est blindé de cadmium et ensuite on va faire des trucs français blindés. Donc rendons à nos agriculteurs le bon sens du travail et arrêtons de les mettre en compétition avec des pays qui ne respectent pas les mêmes règles.
Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Est-ce qu'on est en train de s'empoisonner? On voulait discuter de quelques minutes comme ça sur le cadmium avec Didier Giraud.
Mais il y a certainement des choses graves qu'on ne sait pas.
Alors, est-ce qu'on est en train de s'empoisonner? C'est oui, à plus de 75%. Voilà pour les GG aujourd'hui. Normalement, Charles Magnin devrait être dans les parages, mais il est là, Charles Magnin, parce que la discussion va continuer sur RMC, RMC Story, avec la bande d'Estelle, la bande de Charles. Bonjour, mon cher Charles.
Bonjour à tous. Pardon, j'étais subjugué par le coming out écolo de Charles Consigny.
Mais
oui, ce discours et ce débat m'ont passionné. Moi,
je vais dans un rassembler. Instant.
Tiens, une autre proposition qui va beaucoup plaire à Charles Consigny, la première mesure du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, va doubler les taxes sur les logements vacants.
Bien sûr.
Objectif, pousser les propriétaires à louer ou vendre leur logement. Il y a des centaines de milliers de logements vides à Paris. Les Parisiens qui galèrent à se loger. Est-ce que la bonne solution, c'est de doubler les taxes? On va en débattre dans un instant. On va aussi parler d'Amazon qui dévoile un nouvel entrepôt géant, cette fois dans l'est de la France. 180 000 mètres carrés sur 4 étages. Est-ce que c'est génial? Vive Amazon, des emplois.
Attends, ça donne du boulot.
Oui, mais ça tue aussi des petits commerces. Ça tue aussi le tissu social local. On va en parler avec nos chroniqueurs dans un instant. Et puis on va parler d'amour. L'amour.
Ah bon, pourquoi?
L'amour à distance. Ah. En parler. Les relations à distance. Est-ce qu'elles peuvent
ça
tenir?
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
C'est le truc le plus bidon du monde.
Et pourtant, il y a de plus en plus de Français qui vivent des relations à des centaines, parfois des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, les jeunes voyagent.
C'est pas des vraies relations. Tu parles. J'aimerais bien savoir ces Français-là quelles relations ils vivent par ailleurs à proximité, tu vois.
Ah oui, il y a une question de confiance, c'est sûr, quand on est à des milliers de kilomètres. Oui, oui. Mais pour certains, ça tient. Et puis, on aura un tu préfères, comment dire, au sommet, entre peut-être les deux plus grands. Un vrai dilemme. Tu préfères Céline Dion ou Jean-Jacques Goldman?
Ah putain, Céline Dion.
Ah il est dur, hein.
Alors, ah putain, Céline Dion.
La vraie star, c'est Céline Dion.
Bah, le combo, c'est.
Céline.
Ah mais Goldman, c'est le Édouard Philippe de la chanson. Il est numéro 1 et on le voit jamais. Excellent.
C'est pas faux.
Et Didier?
Goldman, parce que c'est. C'est lui qui fait la substance, c'est le parolier. Ah, et peut-être que Céline Dion ne serait pas Céline Dion sans Goldman.
32-16 pour en parler avec Charles Magnin en direct jusqu'à 15h.